100% d'Europe, Frédéric Lebel.
La question des migrants, de leur survie, de leur accueil, n'en finit pas d'interpeller l'Europe. Depuis le début de l'année, on estime à 188 000 le nombre d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont traversé la Méditerranée au péril de leur vie. Les plus chanceux sont sauvés au large des côtes libyennes, avant d'être pris en charge au sud de l'Italie et de la Sicile. C'est là qu'ils reçoivent les premiers soins médicaux d'urgence, quand ce n'est pas en pleine mer. Reportage signé Cécile Debarge.
Quand le molosse d'acier commence à manœuvrer dans le port de Palerme, on ne voit qu'elle, ses combinaisons blanches qui se gonflent et se dégonflent avec le vent. Les hommes de la marine militaire italienne s'activent de bâbord à tribord pour préparer la dernière phase de leur opération de sauvetage, l'arrivée sur la terre ferme de 532 migrants, sauvés en moins de 24 heures. Tous sont sains et saufs, explique quelques minutes plus tard le commandant Antonio Dovizio.
Les migrants ont été amenés à bord du bateau, mis à l'abri, et ceux qui en avaient besoin ont immédiatement été pris en charge. On a aussi procédé à un premier examen médical pour déterminer s'il y avait des cas de maladies infectieuses, car si c'est le cas, on prévient tout de suite les autorités médicales à terre pour qu'elles puissent prévoir le nécessaire. Mais cette fois, ça n'est pas arrivé. On a eu seulement quelques cas de varicelle et de gale.
Aucun cas grave donc, si ce n'est cette urgence déjà gérée en haute mer avant d'arriver au port, confie soulagé le commandant du Vega.
Il s'agissait d'une famille érythréenne composée de la mère, du père, du petit garçon de 2 ans et d'un bébé de quelques jours. On a estimé que le nourrisson devait avoir 3 ou 4 jours. Elle a sûrement dû naître très peu de temps avant la traversée. Mais ensuite, pendant la nuit, l'état de santé de la petite s'est détérioré. Elle avait des poussées de fièvre très fortes. À bord, on lui a donné les médicaments adaptés et ensuite, on a activé le processus d'évacuation avec les gardes-côtes qui sont venus la chercher au sud de Lampedusa. À bord d'un bateau à moteur pour la transporter ensuite sur l'île.
Parmi les autres passagers du Vega, certains seront évacués directement sur des civières, d'autres en fauteuil roulant. Ils clopinent, ils boitent, pieds nus ou en tongs, bien souvent. Leurs blessures racontent une histoire dont on ne connaît que la fin, le sauvetage en mer et l'arrivée en Italie. Ornella Dino est responsable de l'aide médicale aux migrants pour la province de Palerme.
Ce ne sont pas des problèmes de santé qu'ils ramènent de chez eux. Ou alors quand c'est le cas, par exemple une fracture qui a été mal consolidée, ce ne sont pas des choses qu'on règle au port. On fait une ordonnance, on écrit tout et on explique qu'il faudra opérer plus tard et c'est soigné par la suite. Ce sont toujours des problèmes liés aux conditions du voyage, en particulier au séjour en Libye et ensuite au voyage en mer.
Surtout la permanence en Libye, puis le voyage en nave.
Les 308 hommes, 85 femmes et 149 enfants ou ados prêts à débarquer sont donc auscultés tout de suite sous les tentes blanches et bleues installées sur le quai. Première étape, un questionnaire que détaille Ornella Dino.
Parfois, on forme même des petits groupes et on demande « Alors, d'où est-ce que vous venez ? Combien de temps a duré le voyage ? Combien de temps vous êtes resté en Libye ? Est-ce qu'il y a des antécédents familiaux de forte fièvre ? Est-ce que vous toussez ces derniers jours ? Est-ce que vous crachez du sang en toussant ? Avez-vous des diarrhées ? Des lésions cutanées ? Si oui, montrez-nous. Et pour les femmes, êtes-vous enceinte ?
En moins de 5 minutes, on sait où orienter chaque nouvel arrivant. Il y a une tente pour les hommes, une pour les femmes et les enfants, et une pour les problèmes de peau. C'est le triage, un terme qui décrit mal les mille et une précautions de l'équipe médicale pour mettre à l'aise les patients du jour. Ornella Dino.
Dans la mesure du possible, avec les temps très courts qui sont les nôtres, on essaie de tout expliquer. On ne prend rien pour acquis. Car on est parfaitement conscient qu'ils ne savent pas pourquoi on touche leur corps, pourquoi on les manipule, on les déplace d'un endroit à un autre, ou on les transfère. On est conscient que c'est une étape très difficile pour ces personnes qui sont encore souvent traumatisées par le voyage.
Les médiateurs culturels qui assurent la traduction sont le maillon indispensable de cette immense chaîne humaine composée de 6 à 8 médecins, plus un chirurgien, un dermatologue, un gynécologue, un pédiatre et 3 à 4 infirmiers. Une équipe désormais habituée à gérer les problèmes de santé des migrants à peine arrivés.
En général, ils ont des problèmes respiratoires, des toux, des douleurs abdominales ou des états de déshydratation et de dénutrition sévères ou bien des traumas. Par exemple, on a déjà envoyé plusieurs personnes en chirurgie plastique pour de graves brûlures, des coupures ou des blessures profondes. La dernière fois, les personnes avaient passé plusieurs heures dans l'eau à tenter de s'accrocher au morceau de bois du bateau et on a envoyé l'une d'elles en chirurgie plastique parce que ça lui avait causé une sérieuse blessure.
Les examens médicaux parfaitement rodés prennent au moins 4 heures avant l'identification, puis le trajet en bus qui les mènera au centre d'accueil. Pour les migrants à peine arrivés, le voyage est loin d'être terminé.
La question de l'indépendance va résonner plus que jamais dans l'actualité politique catalane de ce mois de septembre. C'est en effet le 27 qu'auront lieu les élections régionales anticipées et avec elles peut-être un signal en direction de Madrid. Parmi les acteurs de la campagne qui s'annonce, une femme hors du commun, Teresa Forcades, ou plutôt Sœur Teresa, une religieuse qui a décidé de se lancer en politique. Son portrait est signé Martine Pouchard.
On ignore si ce sont les voix du Seigneur ou au contraire l'appel du large qui ont guidé Sœur Teresa. Mais toujours est-il qu'elle abandonne le couvent où elle était recluse depuis de longues années. Teresa Forcades s'est découvert une autre vocation que la contemplation, la politique. Militante pour l'indépendance de la Catalogne, elle se lance sur le ring politique avec des idées bien claires. Participer au processus qui mènera à l'organisation d'une assemblée régionale constituante et au référendum pour l'autodétermination. Enfin, si les dieux et plus particulièrement les électeurs en décident ainsi. Sœur Teresa, c'est peut-être là sa mission, veut aider les plus pauvres et instaurer des mesures anticapitalistes. Le problème, c'est qu'elle débarque sur l'échiquier politique, justement là où d'autres, comme Podemos ou les partis de la gauche radicale, occupent déjà le terrain. La religieuse a écrit un livre, Pour l'amour de la justice, où elle décrit le monde ouvrier féminin du début du XXe siècle qui aurait trouvé en Jésus le symbole du pacifisme révolutionnaire. Et pour mieux justifier sa démarche, Teresa Forcades fait référence aux religieuses qui ont influencé avec plus ou moins de bon sens les souveraines espagnoles au siècle dernier. Quoi qu'il en soit, Sœur Teresa a obtenu l'autorisation des autorités locales pour sa parenthèse monastique sous réserve d'une décision plus sévère du Vatican. Elle est autorisée à prendre un congé sabbatique de 3 ans et sera dispensée de vie monacale. Pour autant, elle ne renonce pas à ses vœux. Pour les autorités religieuses, il existe toutefois une incompatibilité radicale entre le compromis politique de Sœur Teresa et sa condition de religieuse de monastère. En politique, comme les coups bas peuvent pleuvoir sans avertir, on parle déjà de populisme à la catholique. Certains avancent même l'idée d'un retour au national-catholicisme. On en est encore loin. Le parti de Teresa ne compte pour l'instant que 600 fidèles ou militants.
Pour certaines centrales nucléaires, l'heure du démantèlement a déjà sonné. C'est le cas en Lituanie, avec l'unique et immense centrale du pays située à Ignalina. Elle fournissait à elle seule 70% de l'électricité du pays, mais sa fermeture figurait en bonne place dans les conditions pour l'entrée de Vilnius dans l'Union européenne en 2004. Aujourd'hui, le démantèlement se poursuit toujours, et parce qu'il s'agit d'une centrale de type Tchernobyl, d'une immense capacité, le pays espère bien valoriser son savoir-faire en la matière. Reportage sur place signé Grégoire Laurie.
Avec sa petite église et une centaine de lacs aux alentours, la ville d'Ignalina fait une parfaite carte postale. Mais à une trentaine de kilomètres de là, c'est un autre décor qui apparaît. Au détour d'un virage, deux cheminées délavées se dessinent au-dessus de la forêt. La centrale nucléaire se dévoile au cœur de la nature. Même si les réacteurs sont à l'arrêt ici, la sécurité demeure la priorité. Après avoir passé les portiques de contrôle, le changement de tenue est obligatoire. Deux pantalons, deux vestes, des gants, des chaussettes et une paire de chaussures. Voilà l'équipement nécessaire pour voir l'étendue du chantier. Mais avant de débuter la visite, le directeur du département démantèlement, Sergueï Krutostov, souhaite donner des précisions.
Les couloirs font 800 mètres de long. Les deux blocs du bâtiment sont ainsi connectés. Cette zone est parfaitement sécurisée car nous utilisons les standards de sécurité, comme si la centrale était en état de fonctionnement. Les radiations sont surveillées en permanence.
Il faut un bon quart d'heure de marche pour rejoindre le cœur de la centrale. Le hall où se trouvent les turbines donne le vertige, près de 800 mètres de long sur plusieurs dizaines de mètres de haut. L'écho des travaux résonne en continu. Un des deux réacteurs a complètement disparu, mais les turbines du second sont encore là et permettent d'imaginer la taille du chantier. Ovidia Marchicunte, responsable de la communication, explique comment sont recyclés les réacteurs.
Par exemple, nous démantelons les turbines. Nous transformons ces pièces de métal en petits morceaux. Si certains de ces morceaux sont contaminés, c'est uniquement à de faibles niveaux. Ces pièces-là, nous les décontaminons. Nous avons des équipements un peu loin sur le site pour cela. Nous utilisons trois méthodes. Cela peut se faire par la technique du grenaillage, qui consiste à décaper la surface des métaux contaminés. Cette décontamination peut aussi se faire par haute pression hydraulique ou bien avec des machines particulières. Voilà donc les trois méthodes. Nous avons alors des produits qui ne sont plus contaminés et que nous pouvons vendre. L'année dernière, nous avons ainsi gagné environ 2 millions d'euros grâce à la vente de ces métaux décontaminés.
L'enjeu autour du démantèlement d'Inalina est de taille. Les travaux sont prévus jusqu'en 2038 et le coût total du chantier est évalué à plus de 2,5 milliards d'euros. Cette centrale était considérée comme la plus puissante au monde. Les différentes technologies employées pour son fonctionnement en font le chantier nucléaire le plus important d'Europe. La Lituanie veut utiliser cette expérience pour devenir ainsi une référence en matière de démantèlement.
Nous avons un objectif, c'est celui de devenir expert en matière de démantèlement de centrales nucléaires parce que nous sommes les premiers à mener ce genre de travaux. Personne auparavant n'a démantelé de centrales aussi grandes et sur ce type de réacteur. Nous serons donc les premiers à posséder une connaissance en la matière. Notre objectif, c'est que lorsqu'il n'y aura plus de centrales ici, qu'il n'y aura plus de bâtiments à part ceux consacrés au stockage, nous participerons alors à l'élaboration de standards pour la fermeture d'autres centrales.
Mais une problématique très inquiétante demeure autour du stockage des différents déchets combustibles et liquides. Des installations ont été construites, mais elles ne sont que temporaires, c'est-à-dire pour une cinquantaine d'années. Le chantier manque en fait de capacité pour entreposer le reste des déchets.
Nous construisons une nouvelle installation de stockage. Le projet a commencé en 2005. Il aurait dû être terminé pour 2009, mais malheureusement, nous avons beaucoup de retard. Désormais, nous espérons que cette nouvelle installation sera prête en 2017. Voilà pourquoi nous n'avons pas d'espace pour le démantèlement et le stockage du second réacteur.
La question des capacités de stockage des produits radioactifs à très long terme est pour l'instant encore à l'état d'étude. Et c'est bien ce qui inquiète la coprésidente des Verts au Parlement européen. Rebecca Harms s'est rendue sur place et pour elle, il y a encore beaucoup d'interrogations en suspens, malgré de réels progrès.
Moi, j'ai l'impression que l'âge nucléaire s'est terminé à Ignalina. Il n'y aura pas encore une fois une centrale nucléaire là-bas, mais le processus de nettoyage et la préparation de stockage des déchets, ça, c'est pas encore parfait. Ils ont commencé, ils essaient de faire ça très bien, mais le grand problème derrière, ce qu'on ne voit pas là, c'est il n'y a pas des finances. Il n'y a pas des finances jusqu'à la fin de ce processus.
L'argent reste bien évidemment la question centrale de ce chantier. Les fonds européens couvrent pour le moment 95% des besoins financiers. Les négociations pour le nouveau plan de soutien pour la période post-2020 devraient bientôt commencer.
We'll be proud to say, I am an European.
Alors que la fin de l'été signale le décompte macabre des morts sur les routes, la France se prépare à une réforme en apparence surprenante. Le défaut de permis de conduire pourrait bien ne plus être sanctionné comme un délit, mais comme une simple contravention passible d'une amende de 500 euros. Le projet sera examiné cet automne au Parlement, mais en attendant, qu'en est-il chez nos voisins européens? C'est ce que nous allons voir avec Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Tout d'abord Daniel, comment justifie-t-on en France cette mesure apparemment laxiste ?
Vous avez raison Frédéric d'employer le terme apparemment. L'idée est de dépénaliser la première constatation d'un défaut de permis de conduire ou d'assurance afin de désencombrer les tribunaux et de rendre en fait plus efficace la sanction de ce défaut par une amende immédiate et automatique, alors que dans la réalité actuelle, souligne la ministre, plus de 70% de ces infractions sont traitées non pas en juridiction correctionnelle mais par ordonnance pénale avec des amendes et des délais qui vont de 10 à 14 mois pour un défaut de permis ou d'assurance. En outre, le montant de l'amende moyenne sanctionnant ce délit varie de 250 à 450 euros. On est donc très loin des peines théoriquement prévues par le Code de la route, à savoir jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende. Par ailleurs, le projet de loi prévoit qu'en cas de récidive dans les 5 ans, ou si le défaut de permis s'accompagne d'une autre infraction, la qualification de délit est maintenue et peut valoir au délinquant jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende.
Donc la polémique est injustifiée selon vous ?
Disons qu'elle sanctionne à tout le moins une faute de communication, puisque le gouvernement donne l'impression de minimiser la gravité du défaut de permis, alors que 113 000 personnes en 2013 ont été contrôlées sans permis.
Et quels sont les pays européens où les sanctions sont sévères ?
En Allemagne, le défaut de permis est une infraction pénale qui peut valoir jusqu'à un an de prison et une amende équivalente à 180 jours de vos revenus. Car l'amende est fonction des revenus en Allemagne. Marco Reus, le footballeur vedette du Borussia Dortmund, s'est fait pincer sans permis et a dû acquitter une amende de 540 000 euros. Même système d'amende proportionnelle en Suède, le simple premier constat d'un défaut de permis peut vous coûter 30 à 50 jours de salaire. Quant à l'Espagne, y conduire sans permis ou avec un permis invalide vous vaudra 3 à 6 mois de prison ou une peine de travaux d'intérêt généraux de 30 à 90 jours.
Finalement, la France est plutôt tolérante en matière de défaut de permis. Est-elle la seule en Europe ?
Disons que la Belgique applique des amendes assez lourdes de 1200 à 12 000 euros, mais elle ne prévoit pas de peine de prison pour défaut de permis. En revanche, conduire si votre permis a été invalidé ou retiré peut vous valoir 3 mois à 1 an de prison. En ce qui concerne l'Italie, l'amende est lourde de 2200 à 9 000 euros, mais une peine de prison allant jusqu'à 1 an n'est prévue qu'en cas de récidive. En fait, le pays d'Europe qui paraît le moins sévère avec l'absence de permis, c'est le Royaume-Uni, puisque l'amende prévue ne peut excéder 1000 livres sterling, soit 1400 euros au cours actuel. Il est à noter qu'outre-Manche, le défaut d'assurance est plus lourdement sanctionné avec une amende pouvant atteindre 5000 livres. Sachez également, Frédéric, que la reine d'Angleterre est dispensée de permis de conduire.
Et mis à part le cas de la reine, on peut quand même dire que la France sanctionne peu le défaut de permis.
Oui, on peut le dire dans le cas d'une première infraction constatée, mais si l'on s'en tient à la pratique, il n'est pas exact d'affirmer que la dépénalisation actuellement prévue dans le projet de loi Taubira aggraverait ce laxisme relatif.
Merci Daniel Vigneron, à la semaine prochaine.
À bientôt Frédéric.
Je vous invite à visiter le poumon vert d'Istanbul, une immense forêt, la forêt de Belgrade, paradis des amateurs de jogging, de balade à vélo ou de pique-nique. Le lieu était connu pour être la principale source d'eau potable de l'ancienne Constantinople et il en garde encore quelques traces, virée champêtre signée Anne Andlauer.
Difficile d'imaginer dans une ville polluée, embouteillée, peuplée de 15 millions de personnes, qu'il suffit de rouler 15 km vers le nord pour pénétrer dans une forêt de plus de 5000 hectares et n'y croiser personne, ni entendre que le silence. Cet énorme point vert sur la carte, dans le nord-ouest d'Istanbul, c'est la forêt de Belgrade. Elle tiendrait son nom d'un village aujourd'hui disparu, le village de Belgrade, installé là au XVIe siècle par le fameux sultan Soliman le Magnifique. Pourquoi Belgrade ? Parce que les premiers villageois étaient arrivés de cette ville, assiégée et conquise par l'armée ottomane. Le sultan leur avait confié l'entretien des nombreux aqueducs chargés d'alimenter sa capitale en eau. La forêt était donc un endroit stratégique, et ce, dès l'époque byzantine. Plusieurs de ces aqueducs ont survécu jusqu'à nos jours, certains en excellent état. Une dizaine de petits barrages sont encore en activité, même si leur importance est bien moindre qu'autrefois. La forêt de Belgrade, grignotée par la ville, a elle-même perdu près du tiers de sa superficie. Beaucoup s'inquiètent d'ailleurs du sort de ce poumon vert, car la métropole stambouliote s'étend désormais vers le nord avec la construction d'un nouveau pont sur le Bosphore et d'un nouvel aéroport à quelques kilomètres de là. Bien entretenu, très bien aménagé pour les marcheurs, les joggeurs et les cyclistes, la forêt de Belgrade est l'endroit idéal pour les pique-niques des beaux jours. On y cueille même des champignons quand la saison s'y prête, et on y fait le tour d'un lac, une balade d'une heure ou deux. Enfin, si cela ne suffit pas, les abords de la forêt abritent aussi un jardin botanique, le plus grand de Turquie, avec 2000 espèces de plantes, incontournables en toute saison.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Ludivine Amado. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et sur notre site rfi.fr, rubrique émission. À demain.